Alors, je vous invite à chercher Hébreux chapitre 2. Le frère Bertrand, avant de partir pour la Côte d'Ivoire, avait prêché sur le chapitre 1. Et j'aimerais prendre le chapitre 2 à présent, les versets 1 à 4. Il est dit ici, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. » Prions Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce que tu l'as laissée pour notre instruction, tu y as veillé au travers les siècles pour que nous puissions la lire, la méditer, parce qu'elle est un trésor pour nos cœurs, parce que tu abreuves nos âmes par elle. Merci de nous conduire dans cette méditation et de diriger nos pensées vers toi, par Jésus-Christ. Amen. J'aimerais profiter pour donner quelques pensées à l'égard de la Côte d'Ivoire. On s'est rendu là-bas. Ce qui nous a frappé, c'est le nombre de chrétiens, la joie qu'ils manifestent d'appartenir à Christ et de vivre pour lui, parfois dans un dénuement quasi total. L'évangile a pénétré dans le pays par le premier couple missionnaire en 1927. C'était le premier couple missionnaire de la mission biblique. Ils s'appelaient Daniel et Laure Richard. Ils ont laissé leur vie dans cette Côte d'Ivoire. Après plusieurs années, ils ont vu les premiers fruits. Et puis, après les premiers fruits, il y a eu un élan dans les cœurs. Et l'Église a prospéré et continuer de prospérer, de sorte qu'aujourd'hui, l'œuvre est entièrement dirigée par les frères ivoiriens, qui a plus d'un millier d'églises dans l'USO, c'est-à-dire cette union qui est née suite à au travail de la mission biblique. Ça représente plus d'une centaine de milliers de fidèles qui se réunissent. Mais il y a d'autres églises, unions d'églises, il y a des méthodistes qui sont arrivés aussi très tôt dans le pays, des baptistes, il y a les chrétiens de l'Alliance chrétienne missionnaire et bien d'autres encore. Et toutes ces dénominations prospèrent dans ce pays. On s'est rendu à Mans, c'est la région d'où est originaire la famille de Donatien, et puis Jude, le jeune frère qu'on a rencontré là-bas, et puis Fabien. Mans, c'est la capitale du peuple d'An. Et le peuple d'An est extrêmement sensible à l'Évangile. La plupart des responsables évangéliques sont issus de ce peuple. Ils entendent le message de l'Évangile et puis ils se convertissent. Là-bas, pour planter le manioc, on coupe une branche et puis on plante la branche dans la terre. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, qu'on arrose ou qu'on n'arrose pas, ça pousse. Ça pousse. Et ils ont cette expression, c'est comme le bâton de manioc, ça pousse. C'est-à-dire, vous le lancez comme ça, il pousse. Vous le lancez comme ça, il pousse. Vous le laissez à terre, il pousse. Et l'Évangile semble faire cet effet dans le peuple ivoirien. Le cœur des Ivoiriens, ou en tout cas d'une grande partie des Ivoiriens, est réceptif à l'Évangile. Et ça, pour nous, c'est un sujet un sujet de joie extraordinaire et puis d'une bénédiction merveilleuse. Pour donner une illustration de cela, l'histoire de la famille du directeur de l'Institut biblique de Mans, l'IBTM. Ses parents vivaient dans un village près de Mans, qu'on a visité avec Anne-Sophie à Biakalé. Et sa mère avait eu 8 grossesses. Et elle a perdu ses 8 enfants. tous sont morts, et dans le village, on avait associé un peu à la fois la mort de ses enfants à une malédiction, et puis eux-mêmes redoutaient que les féticheurs ou les sorciers jettent des sorts à leur famille pour que tous ses enfants soient morts. Et ils ont décidé de quitter le village. Et après avoir quitté le village, ils sont arrivés dans un autre village, et là, il y avait les premiers missionnaires qui arrivaient et qui ont prêché l'Évangile. Et ils ont prêché, probablement d'après Jean 11, que Jésus est la vie et qu'il donne la vie à qui il veut. Et eux qui étaient des païens, craignant les faux dieux, ils ont dit, mais c'est ça. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de celui qui est le prince de la vie, celui qui donne la vie. Et ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Et puis ils sont retournés dans leur village. Et puis quelques temps après, elle est tombée enceinte. Mais son cœur était dans la joie. Elle avait connu Jésus comme son sauveur et le prince de la vie, donnait la vie maintenant dans sa famille. D'autres femmes étaient enceintes. Et tout le village était dans l'attente, parce qu'ils témoignaient partout que Jésus-Christ était leur Dieu maintenant, qu'il ait donné la vie et qu'il leur avait donné cette vie. Et alors tout le monde s'attendait à voir mourir l'enfant. Le mois où cet enfant est né, il y avait 4 autres enfants qui sont nés dans le village. Les 4 autres sont morts. L'enfant de cette femme est resté en vie. Les 4 enfants étaient les enfants des féticheurs. Et le village entier a vu que Jésus-Christ est la vie et qu'il donne la vie à qui il veut. Et à ce moment-là, une église est née. Cette femme a eu encore 7 grossesses, 8 enfants donc en tout. Donc l'aîné, c'est le directeur de l'Institut biblique, les autres sont tous devenus chrétiens. Et ils vivent encore aujourd'hui. Une église a été plantée dans ce village par le père lui-même, quelques bambous, et puis ensuite il a fallu bâtir vraiment une église en dur, et puis maintenant cette église est trop petite. Avec Anne-Sophie, on a vu les nouvelles fondations pour un bâtiment plus grand, pouvant accueillir plus de 200 personnes. Tout ça dans un tout petit village, au fin fond de la brousse. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Les cœurs entendent l'Évangile et puis ils le reçoivent. Alors à qui s'adresse ce message de Hébreux chapitre 2 ? Il dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Ce message ne s'adresse pas aux chrétiens, hein, puisque eux ont déjà reçu le salut. Ils n'ont pas négligé le salut. Pas non plus à ceux qui n'ont jamais entendu le message de l'Évangile, parce qu'eux n'ont pas encore eu l'occasion de mépriser ou de négliger l'Évangile. Ce message, il concerne ceux qui ont entendu parler et qui ne laissent pas l'Évangile entrer dans leur cœur ni transformer leur vie. Et je trouve qu'il est donc particulièrement approprié à notre pays de France qui a entendu parler de Jésus-Christ, qui fait partie des peuples qui ont la Bible dans leur langue depuis très longtemps, dont les fêtes nationales évoquent souvent la naissance ou la mort et la résurrection de Christ, et qui pourtant ne veulent pas de lui. C'était le cas des Juifs auxquels cette épître était adressée. Ils connaissaient intellectuellement un certain nombre de vérités sur la personne de Jésus et sur son œuvre, mais ils ne voulaient pas de lui. Ou, après avoir entendu, ils se détournaient encore vers la loi, vers leurs œuvres. L'auteur est un croyant, il est juif, c'est pour ça qu'il dit « Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues ». La pensée ici, c'est que c'est comme s'il disait « Tous ceux d'entre nous qui ont entendu l'Évangile devraient l'accepter. Vous connaissez des gens autour de vous, votre conjoint peut-être, vos enfants, vos parents, vos amis ou vos collègues, Ils savent, ils ont entendu, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. L'auteur de l'Épître, ici, il va donner trois raisons importantes qui doivent nous pousser à recevoir Jésus-Christ et ne pas laisser passer le message de l'Évangile. Les trois raisons, il va parler de la nature de Christ, de la certitude du jugement et puis enfin de la confirmation de Dieu. Il commence en disant, c'est pourquoi nous ne devons pas, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi, et cette première parole fait référence au premier chapitre, aux conclusions du premier chapitre. Et dans le premier chapitre, Jésus-Christ est montré dans sa nature. Il est décrit comme le Fils héritier de toutes choses, comme le Créateur de l'univers, verset 2. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la nature divine. Il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient tout l'univers par sa parole. Il est aussi celui qui purifie l'homme du péché. Il est celui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, ça c'est le verset 3 du chapitre 1. Les anges l'adorent et le servent, ça c'est verset 4 à 7. Il est celui que Dieu a choisi, le Messie, le Seigneur de la création, le Dieu immuable et éternel. Au verset 8, dans le chapitre 1, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Et puis encore, verset 11, ils périront, mais tu subsistes. Oui, Jésus-Christ est présenté comme Dieu, l'Éternel, celui qui soutient toutes choses. Et à cause de sa nature, à cause de sa personne, on devrait écouter. Quelle sorte de personne pourrait rejeter un tel Christ, le Dieu qui s'est incarné, qui est mort sur une croix pour pardonner nos péchés, qui a payé notre dette, qui a démontré l'amour divin et qui veut nous réconcilier avec Dieu et nous bénir et nous remplir d'une joie incomparable. Comment est-ce possible de saisir qui est Christ, c'est-à-dire de l'admettre intellectuellement, et puis, pourtant, ne pas lui donner sa vie? Et si on interroge le peuple français, on va trouver un certain nombre de personnes qui sont capables de dire « Oui, c'est vrai, Jésus-Christ est Dieu !» Mais ils ne l'écoutent pas. Mais ils ne l'adorent pas. Mais ils ne laissent pas changer leur vie. Et bien qu'ils connaissent certaines vérités concernant Christ, c'est comme si ces vérités leur échappent et ils les laissent s'éloigner d'eux. Si on ne prête pas attention aux vérités que nous avons entendues, nous pouvons être emportés loin d'elles. Il y a un moment où les choses entendues doivent pénétrer notre cœur. Sinon, elles nous échapperont et nous périrons. La plupart des gens ne s'opposent pas farouchement à l'Évangile en France. On n'est pas persécuté. On a appris que dans une région de la Côte d'Ivoire où l'USO envoie des missionnaires, c'est le peuple clat. Ils sont très hostiles. Et les gens ont persécuté les nouveaux convertis. Quand ils persécutent, c'est soit par empoisonnement, soit à coups de machette. Un jeune converti d'un village clat a été découpé à la machette, les mains, le visage. Il y a eu 4 heures d'opération qui ont suivi pour le recoudre de partout. Mais on ne connaît pas ça en France. Il n'y a pas une opposition farouche à l'Évangile. Mais les gens laissent s'échapper les vérités qu'ils entendent. ils ne les reçoivent pas pour les serrer et les laisser pénétrer leur cœur. Le terme grec qui est utilisé là pour nous attacher, c'est cette idée d'amarrer un bateau. Et l'expression « emporter loin d'elle », ça décrit un navire qu'on laisse aller à la dérive. C'est cette idée qu'il nous faut retenir. Nous devons amarrer nos vies à la vérité de l'Évangile que nous avons entendue. C'est-à-dire que ces vérités doivent demeurer attachées à nos cœurs. Il y a un réel effort à laisser pénétrer l'Évangile dans nos cœurs. Il y a une vraie disposition de s'attacher fermement, de retenir fermement les vérités que nous avons entendues. Dans les Proverbes, au chapitre 4, verset 20, il dit ceci, 4:20. Il dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez, et ça revient cet ordre de Salomon pour son fils. Il le répète à plusieurs reprises, garde ces paroles. La véritable sagesse, c'est de s'attacher aux vérités de la parole de Dieu et de les retenir. Aller à la dérive ne nécessite aucun effort. Il suffit de se laisser aller. Mais les conséquences sont dramatiques. Peut-être quelqu'un ici ce matin est en train de laisser filer les amarres, de laisser les cordes filer et bientôt se laisser repartir. Mais si vous avez entendu les paroles du Seigneur, ne rejetez pas, ne laissez pas filer ces paroles, mais laissez-les pénétrer votre cœur. Pour aller en enfer, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien faire. Mais pour aller au ciel, on s'attache. L'idée de croire, c'est l'idée de faire reposer toute sa vie sur les paroles du Seigneur. Nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles, aux choses que nous avons entendues, à l'Évangile, sachant de qui nous l'avons entendu. Les Juifs qui ont reçu cette épître avaient lu les prophètes d'autrefois qui annonçaient le salut en Christ. Ils avaient en mémoire la participation des anges dans les oracles de Dieu, notamment au Sinaï. Les anges ont un rôle, ont un rang particulier dans la création. Ils sont particulièrement élevés, ils ont des pouvoirs surnaturels, ils ont accès au trône de Dieu, ils ne sont pas soumis à la mort. Alors quand les anges parlent, ils doivent être écoutés. Et partout, quand on lit les Écritures, chaque fois qu'un ange parle, l'homme écoute. Mais ici, il nous est dit que Christ est bien supérieur aux anges et que tous les anges lui sont soumis. Ça, c'est les vérités du chapitre 1 et chapitre 2. Alors nous devons prêter d'autant plus attention lorsque c'est Christ lui-même qui parle. Il dit, par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par le Fils. Sa vie parfaite parle. Sa mort et sa résurrection parlent. Si nous laissons filer les paroles du Fils de Dieu, de celui-là même qui a accompli notre salut, qui pourra encore nous parler? Qui pourrait être envoyé pour parler à nos cœurs? La nature de Christ nous pousse à recevoir la parole de Dieu et à nous y attacher fermement. Ah, je ne sais pas si c'est l'émotion de vous revoir, mais la certitude du jugement, ça c'est la deuxième chose dont il est parlé dans ce texte. Il est dit aussi au verset 2, « Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et là, c'est la deuxième raison importante pour laquelle nous devons accepter Christ. C'est la certitude du jugement qui attend ceux qui refusent de l'accepter. Lorsque les prophètes ont annoncé le jugement de Tyr et de Sidon en raison de leur impiété et de leur désobéissance, le jugement est venu. Lorsque les anges sont entrés dans Sodome et Gomorre et ont annoncé le jugement de ces villes en raison de leur péché, une pluie de soufre et de feu tomba du ciel et détruisit entièrement ces villes. L'auteur, au verset 3, évoque une juste rétribution. Le jugement est toujours proportionnel à la lumière que nous avons reçue. Et en cela, le peuple français est terriblement coupable. Le jugement est toujours proportionnel. Plus nous sommes éclairés et plus notre châtiment sera sévère si nous rejetons cette lumière. Le jugement sur les Israélites était sévère parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu. Les villes de Sodome et de Gomorre avaient entendu le témoignage de Lot. Mais parce qu'elles ne se sont pas repenties, elles ont reçu un juste jugement. Nous ne pourrons jamais accuser Dieu d'injustice dans ses jugements. Dans Matthieu au chapitre 11, je lis Matthieu 11, au verset 20. Il dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Il dit, le jugement est juste et il est d'autant plus sévère que pour ceux qui ont rejeté la parole du Seigneur, qui ont reçu l'éclairage du Seigneur. La parole de Christ nous annonce un jugement. Et c'est parce qu'il y a un jugement des vivants et des morts que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils dans le monde pour mourir pour nous, pour détourner sur lui la colère de Dieu. S'il n'y a pas de jugement, Christ n'avait pas besoin de venir mourir sur la croix. La croix nous rappelle la réalité de l'enfer, de la condamnation éternelle pour les pécheurs. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe avait annoncé, dans son chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Toute personne qui connaît l'Évangile, qui le comprend, mais qui s'en éloigne, subira le pire châtiment qui soit, l'enfer. Si le jugement annoncé par les prophètes et celui annoncé par les anges ont eu leur accomplissement, combien nous devrions prendre au sérieux celui annoncé par le Fils de Dieu lui-même, que servent les prophètes et les anges? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, le salut qui sauve si parfaitement, si gratuitement, qui sauve d'une si terrible condamnation, d'une perdition si terrible? et au prix, un salut qui sauve au prix d'un si grand sacrifice, celui du Fils de Dieu lui-même. Comment échapperons-nous? Oui, on doit recevoir et laisser nos cœurs être pénétrés par les paroles, par l'Évangile, et nous attacher fermement au Seigneur Jésus-Christ, à cause de la nature de celui qui parle, à cause du jugement annoncé, à cause de la lumière que nous avons reçue, et puis aussi à cause de la confirmation de Dieu. Verset 3, il dit « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Troisième raison importante pour laquelle nous devrions accepter Christ, c'est la confirmation donnée par Dieu. L'Évangile nous a été donné par Christ. Puis il a été confirmé par les apôtres qui ont entendu Jésus-Christ, qui étaient avec lui, qui l'ont vu. Et Dieu à appuyer leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Les auditeurs qui entendaient les apôtres prêcher Christ pouvaient, à juste titre, pouvaient se demander, mais pourquoi croire ces hommes? Quelle preuve avons-nous de leur message, que leur message vient de Dieu? Quelle démonstration divine pourrait accompagner le message? Ils savaient que c'était des hommes de Galilée pour la plupart, qu'ils n'étaient pas très instruits en Galilée, et c'était des pêcheurs. Mais comment être sûr qu'ils parlent comme venant de Dieu, comme les ouvriers du Seigneur? Comment être sûr? Le peuple avait appris par Moïse qu'il fallait monter au temple et faire des sacrifices. Et puis, eux, ils disent que l'agneau de Dieu a été offert, que seul le sang de Jésus-Christ peut laver le cœur du pécheur. Comment les croire? Et c'est pourquoi Dieu leur a donné de faire les mêmes choses que Christ faisait, et qui attestait la véracité de ses paroles. Lorsque Christ disait qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, quand les gens commençaient à se dire « mais il se blasphème, il se prend pour Dieu », alors Christ levait le paralytique de son lit, et les gens étaient obligés de glorifier Dieu. Il était en train de dire « Je suis Dieu et j'ai l'autorité de pardonner les péchés. » Et quand les apôtres, envoyés par le Seigneur pour prêcher l'Évangile, étaient mis en doute sur leurs paroles, ils pouvaient dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. » Et marche, et le boiteux, misérable, mendiant devant le temple pouvait se lever et se réjouir. C'était la confirmation pour que l'Église soit fondée, pour que les premiers chrétiens viennent à connaître et à placer leur confiance dans l'Évangile. C'était pour que les paroles qu'ils allaient écrire, le Nouveau Testament, puissent être authentifiées comme paroles de Dieu. C'était pour confirmer que les apôtres étaient les agents de Dieu, faisant autorité lors de la fondation de l'Église et de la rédaction du Nouveau Testament. Ces signes miraculeux ont disparu dans leur caractère systématique, sinon ils ne seraient pas appelés miraculeux, mais ce seraient les dons ordinaires de tout le monde. Néanmoins, Dieu confirme la véracité de sa parole, de son évangile, en sauvant des âmes, en transformant des vies. Lorsque le féticheur se convertit et qu'il témoigne de sa foi en Jésus-Christ, qu'il brûle et dénonce tous ses fétiches, lorsqu'il perd joyeusement toute source de revenus, quelle confirmation de la véracité de l'Évangile. Il y avait en Côte d'Ivoire, ça c'est une histoire qui nous a été racontée, un chrétien du nom de David qui témoignait partout où il passait de sa foi en Jésus-Christ. Un jour, les féticheurs, les sorciers, voyant que plusieurs croyaient en Jésus, ont décidé de le faire mourir. Alors ils ont fait appel à un sorcier pour le faire mourir, certainement par empoisonnement ou quelque chose comme ça. Il a dit au commanditaire du crime, « Dans 7 jours, David sera mort. » Le 7e jour, David sortait de chez lui en pleine forme et toujours joyeux d'annoncer Christ. Alors, ils se sont dit, « Ce sorcier-là est pas très bon. » Pour trouver quelqu'un de plus puissant. Et dans la région, il y avait un sorcier réputé. Ils ont fait appel à lui. Il a dit, c'est garanti. Dans 14 jours, David sera mort. Ou alors je ne suis plus sorcier. Le 14e jour, David sort. En pleine forme, le sorcier est mort. L'un des commanditaires va trouver David et puis lui dit, mais David, donne-moi ton médicament, c'est-à-dire ce qui te protège. Et il dit, mais j'ai pas de médicament. Si, donne-moi ton médicament. Non, j'ai pas de médicament, j'ai juste Jésus qui est mon sauveur et c'est lui qui garde ma vie. Alors, il revient quelques semaines plus tard. David, donne-moi ton médicament. Il dit, mais j'ai pas de médicament. Christ est mon sauveur, c'est tout. Il lui dit, écoute, je voudrais te dire qu'on a commandité ton meurtre, ton crime. Il lui explique qu'il avait demandé à ce qu'il meure, que les sorciers ont invoqué tout leur puissance pour qu'il meure. Et lui a dit, mais c'est Jésus-Christ qui m'a gardé. Alors il a dit, donne-moi ce Jésus. Je veux le connaître. Et puis il lui a expliqué l'Évangile. Et puis il l'a reçu. Et puis une église est née dans ce village. L'un des chrétiens que j'ai rencontré m'a dit, chez nous, c'est impensable d'avoir honte de Christ. C'est impensable de taire son nom. Il est celui qui nous a affranchis. Il est celui qui nous a délivrés de la peur, de la crainte, de tous les sortilèges, de tous les sorciers, la crainte des fétiches, des masques. Il est celui qui est supérieur à toutes nos idoles d'autrefois. Et c'est pour ça, il avait cette confirmation intérieure, cette confirmation que Dieu donne à celui qui reçoit l'Évangile et qui s'y attache fermement, que Jésus-Christ est meilleur, plus grand, plus fort, qu'il est le seul vrai Dieu, seul qui sauve. Pour moi, la plus grande confirmation que je peux voir, c'est la multitude des âmes qui espèrent en lui. C'est la joie au milieu des afflictions de la vie. C'est l'attente persévérante du retour du Seigneur. C'est l'attachement à sa parole. C'est la communion fraternelle que nous avons connue. Une communion extraordinaire avec des gens que nous avons découverts. Et en quelques secondes, en quelques instants, le lien le plus fort à qui nous unit, celui qui est en Jésus-Christ. Quelle que soit la culture, quelles que soient les époques, l'Évangile a fait son œuvre de la même manière dans les cœurs. Et ça, c'est la confirmation que je vois. Mais si nous avions encore besoin de confirmation, Dieu dit dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, qu'il a confirmé son Évangile par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Il y a eu des témoins. Ces témoins ont écrit, ont parlé. Ils étaient prêts à mourir pour cet évangile. Et les vies ont été changées, et les vies ont été transformées. Et nous connaissons une vie nouvelle, une résurrection intérieure. Et nous connaîtrons une glorification pour l'éternité. Si vous avez entendu l'évangile, si vous l'avez compris intellectuellement, si vous reconnaissez que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a livré sa vie en sacrifice pour vous, si vous reconnaissez qu'il y a un jugement à venir, et que chaque fois que les prophètes ont annoncé un jugement, il est venu, que chaque fois que les anges ont annoncé un jugement, il est venu, alors croyez Christ, auxquels sont soumis les prophètes et les anges lorsqu'il annonce le jugement à venir. Si vous avez vu les confirmations, des vies changées, des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit au-dedans des cœurs, alors ne négligez pas un si grand salut. Car comment échapperons-nous ? Si nous laissons passer, nous laissons filer un tel message, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à saisir ces vérités et à vous amarrer de tout votre cœur à chacune d'elles.